Le marchand juif, qui tenait un café mort à la porte, me conduisit dans la cour du caravansérail, entouré de bâtiments, les toits tombant à l'intérieur et les murs percés de meurtrières. Il m'indiqua les écuries et le logement de la remonte, et figure-toi ma satisfaction de trouver là, dans une petite chambre ornée de viande fumée pendue au plafond, et de bouteilles rangées sur des tablettes, mon vieil ami Collignon, en train de mettre ses écritures au courant. Représente-toi nos embrassades, et puis la noce qu'il fallait faire. Je ne t'en dirai rien, quoique ce soit bien agréable de trinquer avec un vieux camarade, et de causer des amis et connaissances qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Oui, cela mérite qu'on en parle. Mais tu pourrais me reprocher d'être trop porté sur ma bouche, et j'aime mieux continuer. Le lendemain, en prenant la goutte avec Collignon avant mon départ, je vis qu'une grande inquiétude commençait à se répandre. Des négociants de délices, arrivés pour le marché, parlaient à l'auberge d'incendie du côté d'Aumale, de marchés rasés par les Kabyles, et d'autres particularités semblables. Ces gens me regardaient de temps en temps pour voir l'effet que tout cela pouvait me produire. Mais je me moquais bien de leurs histoires, ayant l'habitude de ne m'inquiéter des choses que lorsqu'elles arrivent. Ils trouvaient que les 12 paillis indigènes, commandés par un maréchal des logis également indigène, n'étaient pas trop rassurants pour le marché des Isères. Et l'un d'eux finit par me dire « Maréchal des logis, savez-vous ce que vous devriez faire? Votre première étape est Hazib Zamoun. Ce n'est qu'à 16 kilomètres d'ici, toujours belle route. Eh bien, vous devriez rester jusqu'à midi. Des soldats français, quand ils ne seraient que 5, inspireraient beaucoup plus de confiance que ces spahis. Ah, ça, lui répondis-je, est-ce que vous me prenez pour une bête? Mon ordre de route est d'être à Hazib Zamoun avant midi. S'il arrivait quelque chose à mon détachement, est-ce vous qui devriez en répondre ? » Mes chasseurs arrivaient alors à la porte sur leur charrette. Je sortis en donnant une poignée de main à Collignon, et j'enfourchai mon cheval que le père Lubin tenait en bride. Après quoi, nous repartîmes. On raconte toujours que dans les grandes occasions le soleil se voile, que la terre tremble, et d'autres histoires pareilles, pour marquer l'horreur de la nature à cause de la mauvaise conduite des gens. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le temps s'était remis au beau et que les alouettes chantaient comme à l'ordinaire. Nous traversâmes bien tranquillement le petit village de Bordj Menayel, puis nous commençâmes à monter par un chemin bordé de blé la grande côte d'Hazib Zamoun. Je me souviens maintenant qu'au bout d'une heure de marche environ, nous rencontrâmes à gauche de notre route une jolie maison européenne, ressemblant à une petite cité ouvrière, le jardin devant, fermé de palissades, les banquettes pleines d'artichauts, de choux-fleurs, de salades pommées, de radis, et sur le seuil de la maison, une véranda toute couverte de volubilis, de chèvrefeuilles et d'autres plantes grimpantes qui pendaient tout autour. Le verger aussi était rempli d'arbres européens, cerisiers, pruniers, pommiers, orangers en pleine fleur. Je m'étais arrêté regardant cette jolie demeure. Mes hommes ne voyaient que les artichauts et l'un d'eux me dit « Maréchal des logis, c'est le paradis terrestre. Si l'on pouvait entrer. » Mais il y avait des palissades et puis à travers les fleurs, je voyais sous la véranda un homme à barbe noire, les yeux luisants, qui n'avait pas l'air de vouloir se laisser voler ses artichauts. Nous continuâmes donc notre route, et j'ai su plus tard que c'étaient les agents des ponts et chaussées qui demeuraient là. Nous avons ainsi appris, quelques jours après, que cette jolie habitation avait été saccagée par les Kabyles, ses arbres coupés, et plusieurs de ses habitants égorgés. Les hommes sont comme des pandars vis-à-vis les uns des autres. Quand ils trouvent un nid plein de jeunes, ils n'y laissent que des plumes et du sang. Enfin, ayant poursuivi notre chemin, nous arrivâmes à Hazib Zamoun, où je fis monter les tentes. J'écrivis mes bons pour toucher mes rations de vivres, et je me rendis moi-même chez Monsieur Boucher, aubergiste et fournisseur. Mais à peine avais-je demandé nos rations de fourrage que ce Monsieur Boucher entra dans une fureur sourde et se mit à traiter notre armée de rien qui vaille, nous accusant de tous les malheurs du pays. Sa femme vint bientôt se joindre à lui pour m'accabler d'injures. L'indignation me gagnait, je leur criais de se taire, ou que j'allais les faire solidement ficeler avec une corde à fourrage et conduire au commandant de Tizi Ouzou qui pourrait écouter leurs injures si cela lui convenait. Ils se turent alors et me délivrèrent le fourrage contre mes bons. De retour au bivac, après la soupe, voyant qu'il nous restait encore 8 heures de soleil, je décidai qu'on doublerait l'étape et qu'on coucherait à Tizi Ouzou. Nous levâmes le camp. Les époux bouchés sur leur porte me montraient le poing. Je leur ris au nez. Ces pauvres gens tombés depuis entre les mains des Kabyles ont dû faire de tristes réflexions. Ils ont dû reconnaître que sans les soldats, leur boutique était peu de chose. De pareilles leçons coûtent cher, malheureusement les hommes ne s'instruisent que par l'expérience. À partir d'Azib Zamoun, notre route entrait dans l'immense vallée de Sebaou, rivière torrentueuse, presque à sec en juin et juillet, mais alors bordée de joncs, de tamaris et d'autres plantes semblables. Les cimes arides et broussailleuses de la Grande Kabylie se développaient au-dessus de nous, la rivière se déroulait dans la vallée. À mesure que nous avancions, chaque détail de ce paysage devenait plus frappant. Un peu sur notre droite, à la cime désert, brillaient les murailles blanches du fort national et la route qui serpente en zigzag jusqu'à sa hauteur. Sur une autre cime, à gauche, scintillait le marabout du Belois, petit ermitage arabe surmonté de son croissant. Lorsque nous eûmes dépassé le camp du maréchal et le petit village appelé Vin Blanc, nous aperçûmes enfin, au pied de ces masses colossales, sur un léger renflement de terrain, le gorge de Tizi Ouzou. En Afrique, l'air est beaucoup plus clair que dans notre pays brumeux. On voit les choses de très loin. Ce gorge, sur un petit monticule presque au niveau des orges et des blés, avec son mur d'enceinte haut de 3 mètres et blanchi à la chaux, n'avait pas grande apparence. Malgré moi, j'en conçus d'abord une triste opinion, d'autant plus qu'il nous cachait le village européen et le village arabe, tous deux inclinés sur l'autre pente du Mamelon. De sorte que je me représentais l'immense ennui que nous allions avoir et la quantité de verres d'absinthe qu'il faudrait prendre en cet endroit pour tuer le temps. Mais il ne faut jamais désespérer de rien, et nous devions avoir à Tizi Ouzou des distractions auxquelles j'étais loin de m'attendre. Avant d'arriver au Borge, nous eûmes le plaisir de rencontrer la belle fontaine construite par les Turcs pendant leur occupation. Elle est à gauche et en contrebas de la route, entourée d'une solide maçonnerie à fleurs de terre et recouverte de 2 magnifiques saules pleureurs. On ne peut voir d'eau plus fraîche, plus limpide. Et ces 2 grands saules qui se penchent, laissant tomber leurs longues feuilles pâles, sont d'un effet admirable. Presque tous les voyageurs, en passant, descendent à la fontaine abreuver leurs mules et leurs chevaux. C'est ce que nous fîmes. Et sur les 6 heures, nous arrivâmes au bord de Tizi Ouzou, découvrant enfin sur l'autre versant de la colline le village européen, avec sa grande rue, son église, sa place entourée de platanes, et contre la montagne du Bélois, le village arabe, la mosquée, la maison de commandement du caïd Ali, noyée dans le feuillage des orangers, des figuiers, des lauriers roses. Cette vue me rafraîchit le sang, et je me promis de descendre plus d'une fois à ces 2 villages. Le Borge lui-même, avec ses 3 portes d'Alger, de Bougie et du bureau arabe, dominait tous les environs. Il comprenait d'abord le vieux Borge, lourd des massives constructions turques en pierre, haute de 25 à 30 pieds et garnie de créneaux. Autour de ce fortin, on avait bâti l'hôpital, la poudrière, le magasin du génie, 2 pavillons pour les officiers, deux longues baraques sans étage servant de remise et de caserne. Le tout était relié par un mur, et plusieurs de ces constructions formaient rempart, leurs fenêtres étant grillées sur la campagne et leurs portes tournées à l'intérieur. Les camarades nous reçurent à bras ouverts, et l'on passa le reste de la journée à se donner des nouvelles. Le détachement du 1er régiment de chasseurs à Tizi Ouzou se composait d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, trois maréchaux des logis, deux trompettes, un maréchal ferrant, 60 hommes, 70 chevaux. Mon camarade, le maréchal des logis Ignard, était 2 semaines. Je fis la connaissance ce même jour, à la cantine, du maréchal des logis Detchard, du train des équipages, un bon et brave soldat pour lequel j'ai toujours conservé de l'estime. La nuit venue et la retraite sonnée, nous allâmes enfin nous reposer à la grâce de Dieu. Le lendemain, après la soupe, Detchard, qui sortait de l'artillerie, et moi, tout en fumant notre pipe, nous fîmes le tour du Borge, car ma première idée en arrivant, quelque part, c'est de voir où je suis. Du haut des remparts, on jouissait d'une vue très étendue sur les deux côtés de la vallée. Detchard m'expliquait tout. « Voici là-haut, me disait-il, le fort national, à 26 kilomètres d'ici par la route. Mais en ligne droite, il n'est pas à plus de 10 ou 12 kilomètres. Il a 6 pièces rayées, 800 hommes de garnison et une bonne fontaine. C'est dommage que nous n'en ayons pas autant. Nous n'avons que des citernes, et l'on peut nous couper l'eau, ce qui serait bien désagréable pendant les grandes chaleurs de mai, juin et juillet. Entre le fort national et nous, dans le fond de ce ravin, coule l'Oued, et si, une petite rivière très froide, claire comme l'eau de roche, qui sort du Dura. On y pêche de bons poissons, vous verrez ça plus tard. L'Oued et si fait un détour derrière cette côte et tombe plus loin dans le Sebaou. À l'embranchement des deux rivières se trouve le village arabe de Sikou Medour, où l'on mène quelquefois les promenades militaires. Toutes les montagnes autour de nous sont habitées par les Kabyles, et l'on peut dire que ces gens-là se défendent très bien. Ce sont des tribus guerrières, surtout les Beni Raten et les Mantka. Tenez, voyez-vous sur cette crête ces murs blancs derrière les broussailles? Vous croiriez des nids d'éperviers, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le village de Bouinoum. Les Kabyles ne bâtissent pas comme nous le long des rivières, ils nichent sur les montagnes. Leurs femmes aiment mieux faire 4 ou 5 kilomètres tous les jours pour descendre à la vallée avec leurs cruches, chercher de l'eau, et les hommes aiment mieux descendre et remonter 1000 fois avec leurs charges d'huile, de fruits et de légumes que de se fier à nous. Je me suis même laissé dire qu'ils ne se sont jamais fiés à personne, ni aux anciens Romains, ni aux Arabes, ni aux Turcs. Ils ont toujours eu plus de confiance dans leurs rochers que dans la parole des généraux. « Cela montre une grande défiance, lui dis-je. « Oui, maréchal des logis, et pourtant, on ne peut pas leur donner tort, car bien des généraux et même bien des empereurs ont manqué de parole. Ces Beni Raten, ces Mantka et tous les autres Kabyles vivent donc ainsi dans les airs, et font semblant de se soumettre quand ils ne sont pas les plus forts. Dans leur village, où les baraques sont entassées sans ordre comme des taupinières, ils fabriquent de tout, des yatagans, des fusils, des balles, de la poudre, même de la fausse monnaie. Puisqu'ils ne se fiaient pas à nous, il ne faut pas non plus se fier à eux. Je suis tout à fait de votre avis. Mais qu'est-ce que nous voyons donc là-bas? Ça, c'est le cimetière européen. Il est entouré d'un petit mur, et cette route qui serpente dans la vallée, c'est la route muletière de Dra el Mizan. Elle se perd plus loin dans les gorges profondes des Maatka. Et ceci, maréchal des logis, derrière l'hôpital, c'est l'endroit qu'on appelle le cimetière des Braves. C'est là que dorment les Français morts en 1857 en enlevant d'assaut le fort de Beni Raten, lorsque nous fîmes la conquête du pays. Et plus bas, à l'endroit où descendent les égouts du Borge, Vous voyez le jardin militaire loué maintenant au vieil Antonio, un bonhomme qui nous vend des légumes pour l'ordinaire. Il tient un petit cabaret où nous allons quelquefois prendre l'absinthe. Detchard me donna ses explications et beaucoup d'autres en suivant la terrasse du petit mur. Puis nous descendîmes au village par la porte de Bougie pour prendre quelques chopes de bière à l'auberge de la femme sans tête, non loin des écuries militaires. La bière n'est pas mauvaise avant le mois de mai en Afrique. Et puis, on ne peut pas toujours prendre de l'absinthe ou du vermouth. Nous étions donc là, le coude sur la table. Je regardais par la fenêtre les gens aller et venir dans la rue. Au bout d'une heure, j'avais vu passer le jeune curé, avec sa barbe noire, le tricorne sous le bras, puis les deux chères sœurs, le bandeau blanc sur le front, qui s'en allaient tenir l'école des filles, le sous-maître Devaux, sergent de zouave que mon camarade Detchard se dépêcha d'appeler en toquant à la vitre, et qui voulut bien accepter un petit verre sur le pouce avant d'entrer en classe. Le brigadier de gendarmerie vint aussi jeter un coup d'œil sur les nouvelles figures. Celui qui m'étonna le plus, ce fut le brigadier forestier Lefebvre, un bon vieux tout gris et l'oreille fort dure, qui gardait les forêts de l'État dans les environs. Il vint se rafraîchir au comptoir, la bretelle du fusil de chasse sur l'épaule. Alors, voyant cela, je me dis que nous étions à Tizi Ouzou, comme dans un autre coin de la France, que rien n'y manquait, ni les curés, ni les chercheurs, ni les gardes forestiers, ni les gendarmes. Et tout ce qu'on m'avait raconté de soulèvements, d'incendies, de marchés rasés, de bénir Athènes, de Mahatka, me parut une mauvaise plaisanterie. J'en étais même vexé. Je trouvais ces figures si calmes, si paisibles, que je me disais en moi-même « Gogel, tu es un véritable enfant de croire à tout ce qu'on te raconte. Est-ce que ces gens-là, s'ils étaient dans l'inquiétude, ne feraient pas d'autre mine ? Allons, allons, il n'y aura rien. » C'est une partie remise pour longtemps. Mais j'étais loin de mon compte. La précipitation des jugements ne vaut rien. Le dimanche 9 avril, le maréchal des logis Ignard descendait deux semaines. Mon tour était venu. Tout alla bien jusqu'au 12. Ce jour-là, je conduisais la promenade des chevaux sur la route du fort national. Les chasseurs me demandèrent de leur faire voir le moulin de Saint-Pierre à quelques kilomètres plus loin, j'y consentis. C'est un moulin français, sur l'Oued Essi, exploité par des négociants d'Alger. Ils avaient là leur gérant avec sa jeune femme et sa belle-sœur. Nous descendîmes donc au ravin, entouré de plantations admirables. Grands arbres, belles cultures, tout réjouissait la vue. Le gérant, un brave homme, s'empressa de nous montrer l'établissement, et puis nous vîmes d'un bon pas, car je craignais d'avoir conduit trop loin notre promenade, mais nous rentrâmes à temps pour la soupe. Et vers 3 heures, comme j'assistais au pansage dans les écuries qui se trouvent au pied du Borge, sur la pente du village, le lieutenant Wolf, du bureau arabe, escorté de 4 cavaliers, arriva. « Surveillez bien le pansage, me dit-il, et faites donner une bonne ration aux chevaux. Tout annonce que vous monterez à cheval ce soir. » Il s'en alla, et toute l'après-midi on vit du mouvement. Le vieux brigadier de Spahi, Abdelkader Soliman, attaché depuis des années au bureau arabe, rentrait vers 4 heures, et le voyant arriver ventre à terre sur son cheval blanc, la crinière flottante, la grande queue balayant la poussière, sa vieille barbe grise et bourriffée et la chamelière roulée autour du capuchon blanc, je lui criai « Eh bien, Abdelkader, quoi de nouveau ?»« Laisse-moi, maréchal des logis, » dit-il en s'arrêtant une seconde, la croupe de son cheval repliée sur les jarrets. Le caïd Ali se révolte. Monsieur Goujou, l'interprète, est allé chez lui hier soir. Nous avons peur qu'il ne soit enlevé avec ses 2 spahis. » Il repartit à fond de train. Je le suivais de loin, et comme j'entrais par la porte de Bougie, Il sortait déjà du bureau du commandant Leblanc. Il sautait à cheval et repassait auprès de moi comme un ouragan. Il faut avoir vu un vieux cavalier arabe descendre une rampe pareille au triple galop pour savoir ce que c'est que de manier un cheval. Enfin, pendant qu'il allait porter des ordres quelque part, je rentrais dans notre chambre où se trouvaient justement les maréchaux des logis, Ignare et Brissard. Goguel, me dit aussitôt Brissard, il y a du nouveau. Le lieutenant m'a demandé la liste des chevaux disponibles. Il m'a dit de compléter leurs 3 paquets de cartouches à mes hommes, de préparer les bons pour 6 jours de vivre et de nous tenir tout prêts à partir. Tant mieux, dit Ignare, nous allons voir du pays. Dans 3 jours, nous serons près d'Aumale. Je n'étais pas de leur avis, et je leur racontai que le caïd Ali venait de se révolter aux environs, ce qui nous dispenserait d'aller si loin. « Qu'est-ce que le caïd Ali peut faire avec son gros ventre ?» disait Brissard. « Comment cette grosse pastèque pourrait-elle tenir la campagne ?» Je leur fis observer que caïd Ali n'aurait pas besoin de marcher s'il avait 2 beaux frères, Mokrani et Saïd Caïd, qui tiendraient la campagne à sa place. Brissard sortit là-dessus pour compléter l'armement, et vers 7 heures, le lieutenant Kayat, puis le sous-lieutenant Arissi, vinrent nous prévenir que dans 1 heure il faudrait être prêt, que nous serions 40 combattants. Ils nous recommandèrent surtout de ne pas courir, de ne pas faire de bruit, d'éviter tout ce qui pouvait donner l'éveil, et d'être à cheval après avoir complété nos provisions de 6 jours. Ces ordres donnés, chacun s'occupa de son affaire, et à 8 heures sonnant, l'appel terminé, nos officiers se partagèrent les hommes en 2 pelotons de 20 hommes chacun, le premier commandé par le lieutenant Kayat, Brissard et Ignare, maréchaux des logis, le second commandé par le sous-lieutenant Arissi, et moi comme sous-officier. Nous allions laisser dans le Bordj, en partant, une 15aine de chasseurs, 104 mobilisés de la Côte d'Or, 5 artilleurs commandés par un brigadier et 20 soldats du train commandés par le maréchal des logis Detchar, qui remplissait en même temps les fonctions d'adjudant de place. Le commandant supérieur était M. Leblanc, chef du bureau arabe de Tizi Ouzou. Le bureau arabe se composait de M. Sage, capitaine, Wolf, lieutenant, Lafourcade, sous-lieutenant, et de M. Goujon, interprète, jeune homme plein d'énergie. Ajoutez un cadre du génie, un gardien de batterie, un jeune chirurgien, M. Annesley, nouvellement sorti des écoles, et M. Desjardins, comptable. Donc, sur les 8h30, chacun ayant pris sa place dans les rangs, le lieutenant Kayat donna l'ordre du départ et nous descendîmes la rampe du Bordj au village. En traversant la grande rue, le sous-lieutenant Arissi me demanda si j'avais de la place pour loger sa gourde. Une petite place pour la gourde ne manque jamais aux chasseurs d'Afrique. Nous fîmes halte un instant à la porte du café Thibault. Mademoiselle Marie nous remplit la gourde d'eau-de-vie et nous offrit un petit verre de cognac. Après quoi, nous rejoignîmes le détachement qui cheminait en silence sur la grande route. La nuit était venue, très obscure, et quelques pas plus loin, nous prîmes le chemin de Sikoumédour en traversant l'Oued Essi. Les chevaux avaient de l'eau jusqu'au poitrail. Les étoiles tremblotaient dans les flots sombres. Après avoir touché l'autre rive, durant plus d'une demi-heure, nous eûmes un chemin impossible, bordé d'immenses cactus dont les dards nous accrochaient et nous piquaient jusqu'au sang. Mais on ne murmurait pas, on allait. Vers 11 heures, les aboiements des chiens de Sikoumédour nous avertirent que nous contournions le village. Nous n'en étions plus loin, et quelques instants après, nous sortions de ce passage abominable, sur un grand terrain vague, autant que j'en pus juger par cette nuit noire. Là, le lieutenant nous donna l'ordre de nous mettre sur 2 rangs, puis de mettre pied à terre. Il commanda de planter les piquets, de tendre les cordes, d'entraver les chevaux. Cela fait, il nous appela, les trois maréchaux des logis, et nous dit de prévenir les hommes qu'on ne dresserait pas les tentes, qu'on n'allumerait pas de feu et qu'on ne ferait pas de bruit. « Les chevaux ne seront pas décellés, dit-il. On les déchargera seulement. Chaque homme, après avoir débridé, se couchera près de son cheval, le sabre au corps, le fusil sous la main, la bride passée dans le bras, pour être prêt à brider et à monter au premier signal. Il est bien entendu que deux factionnaires vont être placés et qu'on les relèvera d'heure en heure. Un de vous se promènera en tête des chevaux durant 2 heures, un brigadier se promènera derrière, le même temps, chacun à son tour. Moi, je resterai là pendant que monsieur Arécy se reposera, puis il viendra me relever. À 4 heures du matin, on donnera une ration aux chevaux, on fera le café, à 5 heures, nous serons à cheval. » Après ces explications, je pris le premier quart. Le lieutenant alluma sa pipe et les chevaux étant déchargés, tout rentra dans le silence. La nuit était profonde. Nous entendions l'eau du Sébaou couler sur les galets et plus loin les bandes de chacals s'appelaient d'un bout à l'autre de la vallée. Le silence était aussi troublé par les cris des chevaux qui se battent quelquefois entre eux et ceux des chasseurs réveillés en sursaut qui les traitaient de vieilles rosses en les menaçant de se fâcher. Au bout de mes 2 heures, j'allai réveiller Ignard, qui dormait sous son manteau. C'est un bien bon garçon, mais il ne put s'empêcher de prétendre en se levant que je n'étais pas resté là 5 minutes. Le brigadier Perron alla réveiller aussi son camarade, qui n'était pas de la meilleure humeur à ce que j'entendis. Enfin, je me couchai près de mon cheval et je m'endormis. Le petit jour blanchissait à peine le haut des montagnes lorsque mon chasseur Coppel m'éveilla. « Tenez, maréchal des logis, me dit-il en me présentant un bon quart de café, voilà de quoi vous réchauffer. » Aussitôt, je sautai sur mes jambes et je regardai. Nous étions tout près de Sikoumédour, dont les vieilles baraques en torchis couvertes de roseux et les jardinets, séparés l'un de l'autre par d'énormes haies de cactus, se voyait à 50 pas. Nous occupions derrière le village un petit plateau où s'élevaient quelques meules de paille entourées d'épines. Des officiers du bureau arabe, arrivés après nous pendant la nuit, s'étaient logés dans une de ces meules. Leurs spahis caracolaient autour. Une foule de kabyles, par groupes de 15 à 20, avec leurs grands burnous blancs, leurs longs fusils ou leurs vieux tromblons en bandoulière, descendaient des montagnes environnantes. C'étaient nos contingents. Ils arrivaient, soi-disant, pour nous soutenir. Je vis tout cela d'un coup d'œil. Les enfants de Sikoumédour arrivaient aussi se mêler à nous et nous observaient d'un œil de pipe, pendant que les femmes nous regardaient du fond de leurs gourbis et les cigognes du haut des toits. C'est le pays des cigognes, je n'en ai jamais autant vu de ma vie. J'avalai mon quart de café, puis je donnai la collade à la gourde du lieutenant Arécy. J'appelai les camarades qui lui souhaitèrent aussi le bonjour. Le lieutenant arriva presque aussitôt. Il ordonna de recharger les chevaux, de leur ôter la musette, d'enlever les cordes et les piquets. Le soleil alors étincelait. Tous ces kabyles qui venaient gravement et s'arrêtaient à quelques pas du bivac ne m'inspiraient pas trop de confiance. Bientôt, les officiers du bureau arabe se mirent à leur distribuer des cartouches. Des mules chargées de couffins arrivaient encore plus loin et la distribution continuait. Les spahis, tout joyeux, causaient avec ces nouveaux venus. Et je dis au vieil Abdelkader qui s'avançait à cheval en lui présentant la gourde. « Dis donc, brigadier, qu'est-ce que tous ces bédouins-là? D'où sortent-ils et qu'est-ce qu'ils demandent ?» Lui, regardant de tous les côtés, pour s'assurer que personne ne le regardait, leva le coude et but un bon coup. Puis passant lentement la main sur ses vieilles moustaches grises, il me rendit la gourde et répondit. Le caïd Ali s'est révolté avec son village de Temda. Alors tu comprends, maréchal des logis, nous avons prévenu les autres tribus de nous envoyer des gens pour faire razzia. Ce sont nos amis. Nous allons marcher devant, comme toujours, eux derrière. Caïd Ali se défendra peut-être. On donne quelques cartouches à ces gens pour charger leurs fusils. Il y aura razzia, répéta-t-il en souriant. Et si nos amis nous tournent kazakh, dit Brissard. Il n'y a pas de danger, tu vas voir. Les femmes et les enfants de Temda sont déjà partis. Nous prendrons tout et nous brûlerons le village. Il y a beaucoup de bœufs à Temda. Si tu en prends un, je le donnerai à mes amis, les chasseurs. Ainsi parla le vieux Spahi. Il en avait vu bien d'autres depuis 30 ans et ne doutait de rien. Puis il partit, allant à la rencontre de nouveaux groupes de Kabyles pour leur indiquer l'endroit où se distribuaient les cartouches. Au bout de quelques instants, le lieutenant Kayat, nous ayant fait compter par 4 et rompre par 2, se mit à la tête de la colonne avec un cavalier du bureau arabe qui devait nous servir de guide, et nous partîmes tranquillement à travers les broussailles jusqu'au tracé de la nouvelle route de Tizi Ouzou à Bougie. 200 ou 300 Kabyles nous précédaient. Mais voyant que la masse ne nous suivait pas, le lieutenant fit arrêter la colonne et le guide retourna voir ce qui retardait ces gens. Il revint dire que les Kabyles se partageaient en 2 colonnes, dont l'une suivait le pied de la montagne des Beniraten à notre droite, l'autre la rive du Sebaou à notre gauche. Il ajouta que ces 2 colonnes nous rejoindraient avant d'arriver à Temda. Le lieutenant, satisfait de cette explication, après nous avoir fait mettre pied à terre pour serrer les sangles, ordonna de se remettre en marche. Nous allions sans nous presser. La route, qui n'était qu'ébauchée, suit cette magnifique vallée du Sebaou dans toute sa longueur. De chaque côté s'élèvent de hautes montagnes couvertes d'oliviers où se détachent les murailles blanches des villages kabyles. C'était un spectacle splendide au lever du soleil. Le Sebaou, presque à sec, laissait à découvert les 3/4 de son lit, plein de galets blancs comme du marbre. De notre côté, l'eau, plus profonde, serpentait contre la berge à travers les tamaris et les lauriers roses. De loin en loin se levaient des bécassines, des sarcelles, des cigognes et d'autres oiseaux aquatiques qui fuyaient à notre approche. Les 2 colonnes du bureau arabe s'étaient enfin décidées à partir. L'une allait sur une longue file dans l'ombre des montagnes, l'autre sur les galets de la rivière en plein soleil. Elle semblait nous escorter à distance. La marche durait depuis environ 1 heure lorsque nous découvrîmes à 5 ou 6 kilomètres devant nous, en travers de la vallée, une haute colline à gauche, entièrement déboisée et couverte de blé vert. Le Sebaou faisait un coude au pied de la colline et des milliers d'Arabes fourmillaient là-haut. Au sommet d'un petit mamelon à droite, se dressait un cavalier sur un cheval noir et vêtu d'un burnous noir. Dès que cet homme nous aperçut, il descendit à la charge, traversa le Sebaou et rejoignit les révoltés. Le guide dit sans doute alors au lieutenant « Voici l'ennemi !» car ces mots furent répétés jusqu'à l'arrière-garde. 20 minutes après, nous arrivâmes au coude de la rivière, large en cet endroit d'environ 1 kilomètre, tout de gravier sec et de 8 à 10 mètres d'eau seulement, coulant contre la berge de notre côté. Nous traversâmes ce petit bras d'eau et dans le lit même de la rivière, sur le gravier, on se mit en bataille, le premier peloton en avant et le second dont j'étais en arrière. À quelques 100 mètres devant nous, au pied de la colline, s'étendait un grand verger de figuiers où nous voyons aller et venir six cavaliers arabes qu'on nous dit être de la famille du caïd révolté. Pendant que nous étions en bataille, nos colonnes de Kabyles auxiliaires s'étaient réunies en une seule masse, car déjà depuis une demi-heure, celle qui marchait à gauche sur le gravier avait passé la rivière, et celle de droite, qui suivait le pied des montagnes, était descendue dans la vallée, de sorte qu'au lieu de les avoir en flanqueur pour nous soutenir, nous les avions sur nos derrières. Et tous ces braves gens, avec leurs grands burnous, leurs longues barbes et leurs fusils, s'arrêtèrent tranquillement sur la rive, regardant ce que nous allions faire. Quelques-uns avaient bien déchargé leurs vieilles patraques, mais ils savaient qu'elles ne portaient pas au quart de la distance. Enfin, cela regardait les officiers du bureau arabe. Le lieutenant Kayat ne parut pas s'en inquiéter. Il déploya son peloton en tirailleurs, et 5 minutes après, les 6 cavaliers qui nous observaient du verger étaient démontés. Nous avons appris par la suite que 2 étaient morts de leurs blessures. Les autres gagnèrent leur ligne de retraite, emportant les blessés. Ainsi commença le combat. Et maintenant, représente-toi le premier peloton qui remonte à cheval et part au galop. Les Kabyles répandus dans les blés qui se lèvent et font feu sur eux, tout en se retirant à grands pas. La charge qui passe à travers le verger et gagne le haut de la colline, nous, en bas, en ligne de bataille, impatients de partir, et derrière nous les officiers du bureau arabe en train de haranguer nos contingents pour les décider à passer le Sebaou. Le cavalier Ali du bureau arabe ne faisait que passer et repasser la rivière pour leur montrer qu'elle n'était pas profonde. Mais ces braves gens, toujours graves et solennels, n'avaient pas l'air de le voir ni de l'entendre. Lorsqu'une balle vint frapper son cheval, juste au milieu du front, et l'étendit mort dans le courant. Alors nos bons amis poussèrent de grands cris et se précipitèrent dans l'eau pour attraper l'un la bride et l'autre la selle de la bête. Ali gagna le bord et vint nous rejoindre à la réserve. Pendant ce temps, le premier peloton avait atteint aux 2/3 de la colline. Les coups de fusil redoublaient. Tout à coup, nous vîmes déboucher en arrière du premier peloton à droite une colonne serrée de Kabyles, le grand étendard jaune et vert déployé. Ils se dépêchaient d'accourir pour couper la retraite à nos camarades. Le lieutenant Arissi vit le danger. « Pas une minute à perdre, dit-il, sabre à la main, en avant !» Et nous partîmes comme des forcenés. Quelques instants après, nous arrivions au verger. Là, nous enfilâmes un petit ravin où l'on ne pouvait passer qu'un à un, et nous débouchâmes dans les blés, juste en face des Kabyles qui ne nous attendaient pas et se mirent précipitamment en retraite.